Salut les marques, salut les smarts, salut peuple le catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, on se retrouve pour commenter, pour reviewer le Monday Night Raw du 6 septembre 2021, le 1476e du nom. Ça se passe à Miami, c'est la tourmente à Miami, Floride, USA. Au commentaire, la triplette habituelle, Byron Saxton, Corey Graves et Jimmy Smith. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué que dit, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner, une tag team que vous connaissez bien, une tag team gériatrique, une tag team qui vous fait du bien, j'accueille l'insubmersible, l'inamovible, Papy. Salut Papy.
Bonjour mes enfants, bonjour tonton, t'as oublié l'insupportable.
Ah oh non, je dis jamais l'insupportable, je dis l'inarrêtable parfois.
Allez,
Le redoutable, mais l'insupportable, je n'aurais jamais été jusque là.
L'incontinent, bon, l'incontinent peut-être.
L'incontinent, l'incontinental. Ouh là là, magique les review catch-up. Alors peuple de catch-up, on se retrouve donc pour un Monday Night Raw historique comme chaque lundi, surtout quand il est commenté sur catch-up, et on a un programme très 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 chargé, mon papy. J'espère que tu avais pris tes noix de cajou et ton déambulateur auprès du canapé, parce que là, ça va être chaud ce soir. 3 heures de folie, 3 heures de vaisseau amiral. Écoutez, ça avait été déjà annoncé pas mal la semaine dernière. On attaque directement. Et donc, on est dans la grosse arena là, de Miami, quoi, plutôt sympa. Et on a d'entrée les promos d'ouverture hein, qui vont commencer avec le WWE Champion Bobby Lashley et MVP. Qui vont venir interrompre en fait R Cabro. Chacun va se lancer un peu. Ça s'aime pas, hein, papy. Hein, vraiment, on sent que ça s'aime pas entre ceux-là. Hein.
Personne ne s'aime, de toute façon. C'est ça qui est triste. Nous, on voudrait qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de la passion entre ces catcheurs. Et puis, non, c'est toujours des bisbis, là. C'est incompréhensible.
Ouais, parce qu'ils veulent déterminer les prochains challengers des champions tag team d'Euro. Et du coup, le Almighty, il a décidé de lancer un défi à Randy Orton pour un match. La vipère, en fait, il accepte, mais à condition, donc là, on parle du titre individuel, va accepter à condition que Lashley mette le titre WWE en jeu. Donc, double enjeu, finalement, sur ce qui va suivre. Et le Almighty et MVP vont nous dire que le match aura lieu à Extreme Rules. Donc là, déjà, on est en train de nous booker un Orton versus Lashley à Extreme Rules. Comme il veut s'inscrire avec MVP un peu dans l'histoire, hein, c'est historique, hein, donc il veut tout simplement participer ce soir au Tag Team Turmoil Match. Alors, Tag Team Turmoil, la tourmente, le tourbillon, comme vous voulez, qui va engager un paquet d'équipes, puisque sur la petite affichette qu'on a le droit à Monday Night Raw, souvent avant les matchs, on aura droit quand même à AJ Styles, et Omos, les Viking Raiders, la Lucha House Party, Jinder Mahal et Veer, T-Bar et Mace, papy, Mustafa et Mansour, et le New Day. Donc, gros programme d'entrée. Et donc, un Tag Team Turmoil Match qui est là tout simplement pour déterminer les nouveaux prétendants aux champions Tag Team de Raw, Riddle et Randy Orton. Ça va, il y a un enjeu de taille dans cette affaire, et ça va pas rigoler parce que c'est le New Day qui va entrer et qui va affronter d'entrée les Viking Raiders. On va partir en fait sur un espèce de bloc, si vous voulez, ça va durer ce Tarting Turmoil, ça va durer 32 minutes quoi sur cette intro de show quoi. Donc là, on n'est même plus dans l'opener, là on est carrément lancé dans le show à fond. Et donc les New Day vont être un peu les stars de ces 32 premières minutes parce qu'ils vont tout simplement éliminer les Viking Raiders après 10 minutes. Derrière, on va voir les Indiens qui vont débarquer, en l'occurrence nos amis Jinder et Veer qui se quittent plus hein, dorénavant, là ça y est là. Mais eux aussi vont subir la foudre, mais eux par contre vont avoir une grosse résistance. Il va y avoir beaucoup de bagarres entre le Modern Day Maharaja et un peu sa cohorte, puisqu'il y a l'autre poteau aussi qui est ringside, qui est là pour un peu foutre le dawa. Mais Kofi va réussir quand même à aller au bout avec cette fameuse team indienne, et au bout de 17 minutes seulement hein, quand même hein, il y aura une grosse résistance de la part des Indiens, je le redis, 17 minutes, élimination de Jinder Mahal. Là-dessus, un peu d'out of nowhere, on les avait pas vus depuis bien longtemps, c'est en l'occurrence les Lucha House Party qui eux vont rester beaucoup moins longtemps et vont tenir à peu près 4-5 minutes toujours face à une des équipes légendaires, j'ai envie de dire, de Monday Night Raw hein. Donc victoire à nouveau des New Day. Là, on se dit, là, les New Day, mais c'est puissance 1000 ce soir. Eh ben ouais, les amis, parce que les amis à papy débarquent, en l'occurrence, T-Bar et Mace. Alors on se dit, oulala, attention, eux, ils ont mis de la peinture, c'est les Ascension 2.0.
surtout zéro. Ouais. Hein.
Ça va être très, 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 très dur pour s'en sortir. Mais finalement, après s'être fait bien, bien tabasser, en particulier ringside, un peu contre les poteaux, un peu partout, ils vont voler un peu partout, les New Day. Mais après 10 minutes d'une résistance acharnée, eh ben, qu'est-ce qui va se passer, les amis? Eh ben, les New Day vont trouver le moyen d'obtenir un pin très, très rapide, quoi. Et ils vont donc remporter la victoire. Donc là-dessus, on se dit, ah, que va-t-il se passer? Ce qui se passe, en fait, c'est que Mace et T-Bar sont pas du tout contents. Et au bout du bout, ils vont continuer à se déchaîner sur les New Day, sur Mustafa Ali, sur Mansour. Ils vont péter la gueule à peu près tout ce qui bouge, tout ce qui peut être autour du ring et sur le ring. Conséquence à cela, intervention des officiels, report du tag team turmoil match à plus tard dans la soirée, puisque Sonya Deville nous annonce carrément qu'il faut que les équipes puissent se reposer. Alors là, papy, je dis incroyable, quoi. On nous coupe carrément un match qui a duré déjà quand même 32 minutes, donc bon, ça, on va pas s'en plaindre. Mais incroyable, puisque le truc est carrément arrêté et on nous renvoie au calendrier grec, en l'occurrence, certainement le main event, j'imagine.
Oui, bah, une petite pirouette scénaristique qui nous permet de couper cet énorme match en deux, parce que, comme tu dis, on en est à 32 minutes, c'est ça?
Sans compter les entrées, donc on est déjà dans un segment qui a compté 40-45 minutes, quoi.
Quasiment la première heure, de toute façon, complète, qui passe là-dessus, parce qu'en plus, t'as le segment d'avant qui concerne les tactiques aussi, donc t'as quasiment tout été là-dessus. Et là derrière, reste encore trois équipes à rentrer. Donc,
et ouais, il y a trois équipes qui sont toujours pas rentrées, effectivement. Ouais.
Voilà, donc c'est une petite manie pour à la fois s'en servir un peu comme un fil rouge, finalement, de ce tournoi.
Ouais.
On peut dire ça. Et puis aussi pour opposer un peu les UD, parce que les pauvres, là, ils ont quand même bien enchaîné. Ils sont. On parlait de l'absence de Kofi ces dernières semaines, elle est revenue, décidément, Et c'est tout de suite tout en haut de la carte, là, avec une association avec Xavier Wood, qui est aussi en grande forme, qui fait qu'ils enchaînent les victoires, là, comme Jésus multiplie les pains. Mais sinon, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le petit segment vignette qu'il y a eu avant les matchs, là, tu sais, où chaque équipe fait son petit micro de peut-être 10-15 secondes. Et c'est marrant aussi parce que tu vois qui marche bien et qui marche pas du tout, voire peu. Des mecs comme les New Day, c'est méga carton quand ils prennent le micro, les Viking Raiders un peu aussi, AJ Styles et Omos, grosse pop quand ils prennent le micro, enfin surtout AJ, quoi. Et par contre les Indiens, c'est grosse hit, les Lucha Dragon, Lucha House Party, on s'en fout. Et puis alors, les deux connards de Retribution, c'est Ascension 0.0, hein. On arrête et le seul truc qu'ils auront fait, ça aura permis de couper le match en deux, c'est leur seule utilité de la soirée.
Et sinon, on peut constater quand même, c'est 32 minutes de fou de la part des New Day quand même. Là, ça t'a pas épaté un peu? Retour de Kofi Kingston qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Et direct, ils le bookent dans un match comme ça avec 32 minutes de match sur un opener de Monday Night Raw. J'ai trouvé ça couillu.
Ouais, et c'est ce que j'allais dire. C'est en plus du bon catch, hein. C'est un gros rythme. Il y a pas trop de, hormis là cette fin là. Sinon tout le reste du temps c'est comme booké à un rythme assez soutenu. Et ça me rappelle un peu ce qu'ils font de temps en temps avec les Gauntlet Match, qui nous font une fois par an où ça dure qu'à une heure. Là on le fait coup avec les tactiques et franchement c'était plutôt prenant. Et en même temps c'est ça qui est bien, c'est ça que je trouve super bien fait, c'est qu'on a du catch et malgré la quasi-totalité de la première heure qui est consacrée à du catch, et t'as quand même réussi à te foutre de l'histoire partout dedans, quoi. Entre les présentations, la petite confrontation avec l'Achille au début, je crois que c'est les RKBro qui sont au micro, enfin, t'as tout ce qu'il faut pour que tu puisses t'imaginer des histoires, des gens qui se croisent dans le ring, qui jettent des regards, et bref, une première heure parfaitement bouclée.
Ouais. Enfin, vraiment, moi j'ai été assez surpris de ce démarrage en trombe de ce Monday Night Raw. Et c'est plutôt sympa, ça mène la vie dans cette Team Division à Raw qu'on a bien besoin, donc c'est plutôt cool. Et puis effectivement, tout le monde est impliqué, donc c'est assez. Enfin, du côté masculin, en tout cas, tout le monde est quasiment impliqué. Donc c'est vrai que ça met un peu un joyeux bordel, un joyeux tourbillon dans la Team Division. Et c'est très très bien comme ça! Par contre, tu disais Viking Raiders, moi j'ai pas trouvé qu'ils avaient eu une pop particulière, j'ai trouvé que c'était un peu plat, les Viking Raiders.
Ah bon, j'ai peut-être moi qui pense à mes souvenirs.
Ouais, mais après, peut-être, c'est comme ça, la sensation du moment, quoi, tu vois. Par contre, effectivement, je trouve que c'est bien, d'ailleurs, les Indiens ont eu une belle hit. Et c'est bien que ça marche comme ça avec eux, quoi. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Alors, écoute, le menu de ce Monday Night Raw est quand même assez sympa, quoi. Et on va attaquer direct avec un nouveau match, un number one contendership match, un vrai, celui-ci. Où il n'y a pas de champion qui est dedans, hein, là, avec des vrais contenders, avec des vrais morceaux de challenger. Et en l'occurrence, on a un gros match qu'on a déjà eu il y a quelques semaines, quelques mois. Un Sheamus versus Drew McIntyre. Alors là, mes amis, du lourd, de chez lourd, comme ils savent. Là, on a du super heavyweight dans la balance. Ça déconne pas. Alors en plus, il y a un tel contentieux entre l'Irlandais et l'Écossais depuis tellement de temps, depuis le début de l'année 2021 là, que évidemment ça va s'y mettre joyeusement. Tout ça avec le Damian Priest, hein, qui sera derrière un écran en coulisses en train de surveiller un peu ce qui se passe, quoi. Et donc j'ai presque envie de dire chose promise chose due, belle bagarre du début à la fin et vraiment, quand ces deux-là, ils s'envoient à fond, et on sent bien qu'ils se connaissent tellement bien d'ailleurs qu'ils s'envoient à fond, qu'il n'y a aucune retenue, et ça y va sérieux. Alors, on pouvait un peu douter, Drew McIntyre, number one contendership, c'est un face, Damian Priest, c'est un babyface. Moi, j'avoue que, en fait, au démarrage de la cloche, j'étais plutôt dans un état d'esprit pourvu qu'il y ait un double count-out ou un match nul ou quelque chose comme ça et qu'on nous book un triple threat pour Extreme Rules. C'est pas ce qui va se passer puisqu'après 15 minutes de combat, quoi. Donc voilà, là, on est dans les critères, on est dans les standards de Sheamus et de McIntyre et ça va s'envoyer grave. Malgré un finish peut-être bâclé entre guillemets, on va dire, quoi, parce qu'on a le droit quand même à notre roll-up, hein. J'ai pas rêvé, hein, c'est dans ce match-là, hein. Ouais, c'est celui-là où on a le droit de roll-up de Sheamus. Mais il fallait garder un peu Drew McIntyre pas trop faible, justement, peut-être toujours dans cette perspective de triple frite. Et du coup, Sheamus gagne le match, il aura le droit de rejoindre Damian Priest à Extreme Rules pour le titre américain. Après la cloche, on pourra quand même signaler que McIntyre était quand même vraiment pas content du tout et va mettre Sheamus à terre avec son propre masque, puisqu'au cours du combat, il aura arraché le masque de l'Irlandais. Et donc, on sent bien que c'est pas fini cette affaire, hein, papy. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est pas fini cette affaire.
C'est pas fini, c'est un petit rebond dans leur rivalité éternelle, j'ai envie de dire. Les deux gars, en fait, ça me rappelle, c'est marrant, en t'écoutant, ça m'a rappelé un peu le... Je me suis souvenu du sentiment que j'ai eu en se regardant le match, ça m'a rappelé un peu le Rollins, Cesaro qu'on a eu à SmackDown, où on a deux gars qui se connaissent un peu par cœur parce qu'ils ont eu des gros matchs et puis qui, du coup, nous refont un nouveau match qui est une variation des anciens, donc avec des contres et je te pique ta prise et tu me piques ma prise, etc. Et au final, ouais, ça suit par roll-up, mais moi, ça me dérange absolument pas parce que d'une part, ça peut arriver de temps en temps, roll-up, hein, c'est juste quand c'est systématique que c'est chiant. Et d'autre part, effectivement, Drew, il a quand même perdu clean la semaine dernière. Si tu le refais perdre clean cette semaine contre Sheamus, moi, il n'y a pas à périr dans la demeure. Hein, ce mec-là, il est tellement blesse qu'il se refera pour la cerise. Mais bon, ça aura quand même été une petite tâche un peu dans son parcours de ce mois-ci. Et donc du coup on se retrouve du coup avec un classique Heel versus Face à Extreme Rules. Ça devrait donner quand même du gros spectacle, j'en suis convaincu.
Alors j'en profite, j'ai dit une bêtise tout à l'heure sur le timing du match Turmoil parce que je vous ai dit 17 minutes pour les Indiens, mais en fait c'était au bout de 17 minutes que les Indiens se sont fait sortir, donc je précise.
Ça me semblait énorme, mais...
Je précise pour pas me faire pourrir dans les commentaires, ça y est, tonton il botche, voilà. Donc j'ai botché, mais je le corrige quand même en cours d'émission, donc vous l'aurez noté. Allez, on continue ce Monday Night Raw avec les femmes cette fois-ci, et on va retrouver nos Championship Contender Match, mais avec le champion présent. On retombe dans les travers aussitôt après l'avoir quitté, et on va avoir cette fois-ci un WWE Women's Tag Team. Tag Team entre pour les femmes, excusez-moi, les féminines, Nikki Ash et Rhea Ripley, qui dorénavant ne se quittent plus, vont affronter donc les championnes en titre, Natalia et Tamina, dans un match qui va durer quand même 10 minutes, malgré tout. Je ne m'attendais même pas à ça, je m'attendais vraiment à un truc assez bâclé finalement, parce que j'avais lu pas mal de reports quand même qui disaient que Natalia était pas dans une forme olympique et que bon, elle était plus ou moins préservée. Mais finalement, bah écoute, ça passe, elles sont prêtes à en découdre, et du coup, ça va aller à la bagarre. Il me semble, elles s'étaient affrontées en un contre un, non, déjà, là, sur des derniers Monday Night Raw qu'on avait commenté, non?
Avec Tamina, non.
Pas avec Tamina.
Non, parce qu'en fait, Rhea Ripley et Nikki et Seth, elles tournent autour de Nia Jax et Baszler.
Ouais, j'avais gardé en tête peut-être qu'elles avaient eu plus ou moins des interactions avec Natalia, surtout Tamina en fait. Mais effectivement, là, c'était Nia Jax et Baszler les dernières fois qu'elles ont été occupées là sur les deux dernières semaines, c'était ça, ouais. Et du coup, bah match finalement assez classique entre les quatre. Au bout de 10 minutes, Natalia, elle va vouloir bien sûr coincer Nikki dans son sharpshooter, sans voir en fait que pendant ce temps, Nikki fait rentrer Rhea Ripley. Le Nightmare va coller le Riptide qui va bien pour lui donner ainsi qu'à sa partenaire une victoire bien méritée ou pas sur les championnes tag team d'Euro, ce qui fait d'elle automatiquement les number one contenders. Alors papy, là, j'ai envie de dire, c'était... ouais, on ne pouvait que s'y attendre quasiment à cette issue.
Ouais, alors hormis que moi, sur le coup, j'avais même pas tité que c'était un match pour Norman Contender. Je croyais que c'était le match pour la ceinture. Je disais, oh putain, elles ont déjà gagné le titre. Non, alors elles ont juste gagné le droit de candidater au titre. Mais bon, ça devrait pas tarder.
Ah ouais, ouais.
Non, mais je pense que de toute façon, vu la fusée au cul qu'elles ont, Nikki et Rhea, et vu l'aspect team un peu dysfonctionnel, nanana, on n'est pas copines, mais en fait on est copines. Il y a eu tout un segment micro avant le match où Nikki essaie de convaincre Rhea de faire des slogans avec elle et tout. Enfin, c'était franchement pas terrible parce que sans être méchant, Rhea Ripley joue assez mal la comédie pour l'instant, je trouve. Après voilà, elle est toute jeune, hein, donc il faut qu'elle apprenne un peu le métier. Mais là, franchement, c'était pas très bien joué. Et puis voilà quoi, c'est pas inintéressant, c'est pas passionnant non plus. J'espère qu'ils feront un peu d'originalité, qu'ils vont pas juste se contenter de la grande balèze qui fait la gueule et la petite nerveuse qui est tout le temps en train de bondir partout, parce que sinon, ce sera sans intérêt démesuré.
C'est malheureusement une recette qu'ils utilisent très fréquemment et donc voilà, bah, les femmes n'y échappent pas. Et on a droit à ce duo dysfonctionnel qui, moi aussi, hein, je pense, vont aller direct vers le titre. Peut-être des Extreme Rules, peut-être, pourquoi pas. Mais je le sens bien comme ça. Ça sent la fin de règne pour Natalia et Tamina quand même.
Ouais,
même si elles ont le titre quand même depuis... elles l'ont depuis quand? Depuis WrestleMania, elles l'ont.
Non, elle l'a perdu à WrestleMania.
Ah non, elle l'a perdu à WrestleMania, ouais. Ouais, ouais.
Donc, et ils l'ont pris au pay-per-view d'après, je crois. Non, ou en weekly, enfin, je ne sais plus. Je ne saurais plus dire. En fait, ils n'ont pas eu WrestleMania parce que justement, c'était dit, c'est dommage qu'ils n'aient pas capitalisé sur WrestleMania où Tamina avait une pop de folie, quoi.
Ouais. Bah, fact-checking, peuple de catch-up, vous voyez, on s'y perd dans la tag team division féminine. Allez, un qui est venu nous faire coucou et qui vient nous faire coucou tous les lundis en ce moment, en mode gladiateur, notre ami Karrion Kross. Qui va avoir le Moist TV le plus cheap de l'histoire, hein, puisqu'ils vont être en coulisses dans un décor WWE pour ça. Karrion Kross, il va promettre tous les maux de l'enfer à notre ami John Morrison. Du coup, ils vont se retrouver sur le ring et ça va être archi expéditif puisque ça va durer 2 minutes. Karrion Kross multiplie donc son score au niveau des squash matchs et au niveau des victoires au passage. Et voilà, est-ce que ça nous a apporté quelque chose de plus sur le personnage Kross, mon papy?
Non. Non. Là, franchement, j'ai trouvé ça franchement raté. Raté pour les deux en plus. Alors, Morrison a un poil résisté à la soumission de Gilbert Becco, comme tu l'appelles si bien. Pour final perdre quand même. Le Moist TV est vraiment affreux parce qu'il est en coulisses, comme tu l'as dit. En plus, il y avait la musique de fond de John Morrison, ce qui faisait que tu comprenais même pas ce qu'il racontait. Et puis, je trouve qu'il est très très mauvais animateur, Morrison. C'est marrant parce qu'il est très bon en comédie en tant que acteur de comédie. Par contre, pour animer, pour tenir un segment, je l'avais déjà vu la semaine d'avant avec l'autre con, là, comment il s'appelle, l'autre con tête à claque, le blondinet, le youtubeur.
Logan Paul.
Logan Paul, merci. il avait pas du tout suggéré Logan Paul et c'était le Miz qui avait un peu rattrapé le coup justement. Et là, rebelote, il a pas du tout le timing pour poser les questions. Il s'est pas laissé les séances quand il faut. Il parle super vite quand il. Et du coup, donc Morrison a raté son Moist TV. En face, on avait Karrion Kross qui était censé être il s'appelle toujours Karrion Kross lui, qui faisait style le mec vachement méchant, vachement inquiétant. Mais comme il n'y avait pas de rythme, bah du coup ça a donné rien en fait. Il faisait des trucs genre je vais te tuer, je vais te défoncer, attention, je suis le gladiateur. Mais non, enfin c'est ça faisait pas peur du tout. Au final, tu finis par comprendre qu'en fait c'est un segment enregistré parce que à peine ils sont défiés que dans la seconde d'après ils rentrent dans le ring. Donc c'était un truc enregistré en fait. C'est pour ça que c'était pas sur le ring. Et puis bah, pour un match, tu l'as expédié. Donc en fait, je comprends pas pourquoi ils mettent autant de trucs autour des squash match de Karrion Kross. Autant qu'ils squashent les mecs directement, pas besoin de faire du tout team autour. Là, ça sert vraiment à rien. Et là, franchement, je trouve que le segment a desservi les deux.
Ouais, c'était vraiment sans intérêt, oubliable à la seconde. Et ça, c'est terrible pour des catcheurs comme ça. Donc un segment Arrow qui ne restera pas dans les mémoires. Allez, est-ce qu'il va rester dans les mémoires ? C'est ce qui va suivre parce que là, il y a de la friture sur la ligne entre Nia Jax et Charlotte Flair. Alors, elles sont déjà accrochées la semaine dernière, plus qu'accrochées puisqu'elles se sont bien tabassées joyeusement la semaine dernière. Nia Jax a réussi le pin sur Charlotte Flair, la 12 fois championne. Et du coup, l'irrésistible force va s'en aller défier la reine pour tenter de la détrôner maintenant. Hein. Et avant le match, on voit Shayna Baszler qui va se tenir et poser la question, c'est comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'opportunité de titre pour la championne d'Euro ? Et est-ce que Nia sera-t-elle une future championne ou sera-t-elle plutôt la future victime d'un choc ? Donc, Shayna Baszler, comme d'habitude, depuis des mois... nous tease plus ou moins un split avec Nia Jax. Alors on sait pas ce que ça va donner, mais du coup elle serait à fond. Là c'est un title match, Charlotte Flair versus Nia Jax, un match qui va durer 9 minutes à peu près dans les mêmes standards que la semaine dernière au niveau du timing et un peu au niveau de l'ambiance entre les deux femmes qui est vraiment pas bonne. Je sais pas ce que t'en penses papy, mais je sais pas si vraiment elle joue super bien la comédie ou alors vraiment entre les deux, ça s'entend pas génial. Ce qui fait que d'ailleurs par certains moments, l'alchimie entre les cordes, elle est un peu moyenne, quoi. On sent que ça part surtout en baffe. Mais en même temps, chez les femmes, c'est assez inhabituel à la WWE quasiment. Donc finalement, ce qui se passe dans le ring entre Charlotte et Nia Jax, je trouve que c'est assez intéressant. Et on sent quand même Charlotte là, elle est un peu poussée dans ses retranchements. Depuis la semaine dernière, ça a recommencé ce lundi, mais finalement, elle va trouver la solution, notre queen. Mais elle va trouver la solution parce qu'il y a une autre queen qui est là, mais c'est la reine de pique et qui va venir un peu permettre avec une distraction permettre à Flair de coller quand même son natural selection pour la victoire. 1, 2, 3, victoire de Charlotte Flair qui donc conserve dans la foulée Alexa Bliss et Lily. La poupée vont apparaître sur le titantron et inviter à Charlotte sur son terrain de jeu. Flair va refuser l'invitation hein, et hop, la magie de la WWE, hop, Alexa Bliss comme par magie se retrouve sur le ring aux côtés de Charlotte Flair et direct elle se montre totalement intéressée hein, par le titre féminin d'Euro en le montrant du doigt et Charlotte va donc accepter le match pour le titre mais explique que ça sera pas le terrain de jeu d'Alexa mais bien le sien. Alors papy, est-ce que tu t'agenouilles face aux paroles de la Queen?
Perplexe, je suis vraiment perplexe face à ce qu'ils ont montré ce soir, les filles. Pas perplexe par Charlotte versus Nia Jax, parce que je trouve au contraire qu'elles ont pas mal d'alchimie entre les deux et avec un style assez violent. Et je suis enfin heureux que Nia retrouve un style violent, un peu bah, comme un peu ce qu'on demande aux big men chez les garçons. Il faut que ce soit bien qu'elle fasse la même chose chez les filles, finalement, un truc tout en violence. Pas forcément super fluide en termes de prise, mais des gros coups, des grosses cordes à linge qui claquent, c'est un peu ça qu'on attend d'elle. Et moi, là, c'est ce qu'elle fait depuis deux semaines, je trouve ça super intéressant dans Ajax. Par contre, le match totalement parasité par Shayna Baszler, j'ai absolument pas compris. Alors, comme tu dis, ça fait des semaines, des mois qu'ils utilisent des distensions, mais là, c'est pas une distension, c'est dès le début, Shayna Baszler fait tout pour faire perdre Ajax.
Ouais, parce voilà.
Elle commence déjà en lui foutant, en l'appelant alors que le match démarre, et en lui faisant une espèce de guillotine sur les cornes, là où je sais pas quoi, comment on pourrait dire ça. Enfin, et Nia Jax s'en sort quand même. Puis en fait, elle a pas arrêté d'emmerder Nia Jax pendant le match et Charlotte d'en profiter. Le finish, effectivement, elle a distrait. Charlotte fait le natural selection depuis les cordes, donc ça protège encore plus Nia Jax, qui, je trouve, a été vachement protégée pour prendre le pin. Et du coup, moi, je trouve ça vachement dommage ce qu'ils ont fait, cette rupture entre les deux, qui était teasée depuis longtemps, mais qui d'un coup me semble extrême. Et d'autre part, a gâché un bon match, finalement, parce qu'on a trop vu Shayna Baszler, et moi, elle m'a saoulé, Shayna Baszler, franchement, là. C'était pas la bonne hit que j'avais vers elle, c'était plus du putain, t'as droit de nous gâcher le match. Et autre chose, le retour de Alexa Bliss, bah, c'est étonnant, enfin, je comprends pas trop, parce qu'il y a deux semaines, c'était clairement Alexa Bliss qui allait vers Charlotte Flair. La semaine dernière, tu nous reboostes Nia Jax, mais du feu de Dieu, parce qu'elle va quand même foutre elle va foutre KO quand même, et Nikki Aish, et Rhea Ripley, et Charlotte, dans la même soirée, les trois. Et cette semaine, bah, elle repère, et puis elle part en rivalité avec Baszler. Et puis du coup, hop, notre ami Alexa Bliss, qui n'était pas là la semaine dernière, bah, elle réapparaît comme par magie. Tu me diras, c'est un peu sa gimmick. Et ouais, j'ai pas trop compris. J'ai l'impression qu'ils ont fait une espèce de...
C'est assez bizarrement foutu. C'est marrant quand même. En fait, ils ont gardé le personnage du Fiend avec Alexa Bliss. Finalement, ils se sont dit, on va garder ce truc-là. Ça avait l'air de bien marcher. Alors après, Alexa Bliss, moi, elle continue à avoir une grosse pop. Hein. Elle a de la réaction. Elle est beaucoup aimée par le public et tout ça. Donc, de toute manière, ça me paraît pas fou, mais c'est le segment lui-même, tout ça, ouais, c'est pas terrible, je sais pas, moi, enfin, ça me transporte ouais, pas.
Et moi, excuse-moi de te couper, mais c'est pas le choix d'Alexa Bliss comme number one contender qui me perturbe. Parce qu'il y a deux semaines, quand elle a apparu, là, sous le titre en ton, avec la méga pop de la foule, je dis, effectivement, c'est le choix logique. Elle a tapé tout le monde, Charlotte, et ben, Alexa Bliss, c'est la méga pop, celle qui va en face. Mais elle fait ça, la semaine d'après, elle disparaît totalement. T'as Nia Jax qui redevient un brand contender devenu nulle part. Et la semaine d'après, hop, on efface tout et on remet Alexa Bliss et on revient dans Nia Jax. C'est ça qui m'a perturbé. Mais sinon, effectivement, je suis d'accord avec toi. Alexa Bliss, en termes de pop, c'est le choix incontestable pour affronter Charlotte.
Ouais, Arro, je pense que c'est clairement la catcheuse la plus populaire, quoi. Donc, en termes vraiment de popularité, là, vraiment, c'est elle qui pète les applaudimètres. Et puis voilà. Et puis, Shayna Baszler, alors, moi, Shayna Baszler, je t'avoue, moi, je suis content qu'il y ait enfin ce split avec Nia Jax, etc., que cette affaire, ça se règle définitivement. Moi, j'ai envie de voir s'ils sont capables à la WWE de nous sortir quelque chose de Shayna Baszler à nouveau. Et donc du coup bah ça se fait de cette manière-là, c'est pas forcément le plus clean des manières. C'est en plus c'était un title match, donc on aurait très bien pu finalement faire un truc backstage et tout ça pour entériner ça backstage et laisser aller ce match-là, se servir d'une distraction, tout ça. Ouais, bon, c'est du vu et revu, donc du coup c'est pas très intéressant, quoi. Mais après, ce que moi j'espère voir surtout, c'est voilà, Shayna Baszler, ma grande, j'espère que tu vas aller vers d'autres cieux dorénavant. Un autre qui s'envole dans les cieux, hein, qui brasse beaucoup d'air aussi, hein, c'est Reggie, mon bon papy.
Ah oui.
Reggie, lui, il embrasse de l'air, hein, il embrasse et dans tous les sens du terme. Il va défendre son titre 24-7 ce soir dans le ring face à un de ses éternels challengers, en l'occurrence Akira Tozawa. Alors, ne nous demandez pas un play-by-play intense puisque ça va durer 40 secondes. Donc... il va défier toutes les lois de la gravité pour affronter notre Akira, mais Akira Tozawa, en fait, il est obsédé par Reggie dorénavant, mais je crois que le pauvre faudrait vraiment qu'il arrive, quoi. Alors, il fait une espèce de manœuvre assez spectaculaire encore, Reggie, quoi, pour réussir à gagner. Mais c'est surtout ce qui va se passer après la cloche, où il va éviter, mais alors une foule de superstars, hein, qui vont venir les uns à la suite des autres. Je crois même qu'on va apercevoir Jeff Hardy dans la troupe.
J'allais te le dire. J'allais te demander si tu l'as vu.
Ah bah ouais, je l'ai vu. Ouais. Oh, je l'ai vu, ça m'a mis un coup au cœur quand même, hein, quoi. Un multi-champion du monde qui se retrouve à courir après le titre 24-7, quel que soit le détenteur de ce titre, Mazette. Et finalement, quand même, en revenant vers le titre en tronc, notre avis, Reggie, il va se retrouver nez à nez avec Drake Maverick, qui après avoir un peu catché là, je crois qu'il était un petit peu de retour à NXT, il a fait un ou deux matchs en tag team, et là, hop, il nous est envoyé dans la title picture du 24-7, papy, youpi, Drake Maverick.
Pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils soient dans la title sheet du 24-7, Drake Maverick. Je me demande si c'est pas juste une manière de nous le réintroduire en faisant appel 24-7. Parce qu'en fait, il avait son petit sourire, mais tu vois, il a pas couru derrière Reggie. Il a juste fait un sourire. Enfin, je mettrai pas toutes mes économies sur le fait que Drake Maverick revienne dans la title picture de 24-7 et qu'il ait pas d'autres projets. Peut-être
parce
en tant que manager d'ailleurs, parce qu'il était sapé, il était pas sapé pour catcher. Mais voilà, j'ai un doute là-dessus. Et effectivement, pour revenir sur ce que tu disais, il était à NXT, mais il était en binôme avec, comment il s'appelle, le mari de Nikki Cross. Killian Dane, comme ça.
Killian Dane, ouais.
Il s'est fait virer.
C'est dommage parce qu'elle était sympa, cette tag team. J'aimais bien, moi, Killian Dane et Drake Maverick. Après, moi, je t'avouerais que vu la référence que fait R-Truth à la fin en lui parlant de sa femme, Drake Maverick, qui était donc intervenu dans plusieurs segments avec le titre 24-7, voilà, donc il y a un historique, notre Drake Maverick, avec le titre 24-7. Donc, moi, je pense que dans un premier temps, il va être mis dans ce truc-là et qui va certainement être utilisé dans pas mal d'angles de comédie wrestling. Parce que ils arrivent quand même, on est d'accord, quand, alors, 24-7, c'est déjà pas Jojo, mais alors les segments R-Truth, Akira Tozawa, Reggie, là, ça commence à devenir quand même carrément longuet, quoi, non?
Oui, mais non, moi, j'aimais bien au début, puis c'est comme d'hab, ils n'arrivent pas à l'utiliser, de toute façon, cette ceinture, et surtout, c'est un gros défaut, moi, je trouve, avec cette ceinture 24-7, c'est qu'ils gardent tout le temps les mêmes champions. Alors que moi, je pense que ça sera intéressant que ça tourne. On a trouvé plein d'hypothèses, nous, quand ça avait été lancé, en se disant, bah, tiens, un jour, il va y avoir un mec super balèze qui va l'avoir, genre un géant, genre à Homos, imaginons.
Ouais, voilà.
C'est impossible de lui prendre. Mais non, c'est jamais ça, c'est toujours des mecs qui se carapatent et puis qui évitent et puis qui gagnent avec des roll-up. Ils sont jamais sortis de la bouffonnerie, en fait. Et tu les vois jamais des nouveaux champions. Enfin, à une époque, ça changeait pas mal, mais ça fait un bout de temps que c'est tout le temps les mêmes champions, que ça se tourne à trois, là. Tozawa, Trunks et désormais Reggie. Et bah, c'est ça qui fait que c'est lassant, en fait, c'est que c'est tout le temps le même segment qui se répète et semaine après semaine, quoi.
Ils auraient dû faire de Braun Strowman le champion 24-7. On aurait peut-être eu trucs clairement, un peu plus intéressants.
Non, mais sincèrement, hein, c'est un truc où tu te serais marré facile, peut-être à moi, hein, avec ça. Tu te donnais à moi, le mec il aurait fait des pièges et tout pour le faire tourner. Enfin, tu pouvais être créatif là-dessus.
Enfin là, on se dirige vers un quatuor, Reggie, Drake Maverick, R-Truth et Akira Tozawa.
Je dis attention, je suis pas sûr que... Écoutez-moi bien, ceci est un spoiler. Je pense que Drake Maverick ne sera pas dans la title picture de 24-7. Du moins, il ne le sera pas, ce ne sera pas son plan à long terme.
Ouh, ça c'est un ketchup que vous l'aurez entendu. Allez, peuple de catch-up, il est temps de revenir à notre main event. Oui, on y revient, puisque si vous avez suivi depuis le début, eh ben, c'était notre opener. Donc, on revient vers le tag team turmoil match qui va donc déterminer les contenders au titre de Riddle et Randy Orton. Et le New Day, qui aura quand même lutté, qui aura été héroïque tout au long de la nuit, hein, et qui aura affronté à peu près tout le monde, va se retrouver face au former champion, face à AJ Styles et Omos. Ça va être du saignant avec un Omos particulièrement vénère, hein, depuis de lundi là, et il a prouvé qu'il était à nouveau particulièrement vénère. Alors d'abord, ils vont le hors d'œuvre, c'est d'abord qu'ils vont commencer avec Mansour et Mustafa Ali. Hein, je vais faire les choses dans l'ordre. Ça a été assez rapide, ça a duré 4 minutes. Alors on va avoir un main event, hein, qui va durer 30 minutes, hein, tout compris, entrée, on va dire entrée douche et combat, 27 minutes 50, 30 minutes. Donc ça nous aura fait vraiment une grosse heure consacrée à ce tag team turmoil. Et donc les New Day vont d'abord affronter Mansour et Mustafa Ali. Alors bon, je le dis tout de suite, moi, mais ça a été un peu une surprise, parce que je sais pas pourquoi, mais moi je sentais un truc avec Mansour et Mustafa Ali, et je m'attendais peut-être finalement pas à les voir sortir aussi facilement que ça, mais ça va être le cas. Ils vont sortir au bout de 4 minutes 15. Là-dessus, AJ Styles et donc Omos rentrent, et là les opérations de dévastation vont commencer. Ça va durer beaucoup plus longtemps entre ces deux équipes-là. Là, il y a du répondant, là, quand même. Là, mon papy, là, on a du multi-champion du monde par équipe, là. On a surtout avec le
Dead de l'autre
côté. Là, c'est du haut de la carte. Là, c'est quand même, la partie de ce combat est quand même assez phénoménale. Si vous voulez avoir les highlights, Ouais, je vous recommande cette partie-là avec Styles Omos contre les New Day parce que c'est quelque chose. Alors, on répète, ils ont été magnifiques tout au long de la soirée, les New Day, franchement, pendant tout ce temps. Et ils vont aller quand même presque au bout en poussant AJ Styles et Omos au plus fort. Mais finalement, c'est un Styles Clash et une forte assistance de notre ami Omos hein, qui va permettre de battre les New Day. Et c'est finalement Bobby Lashley et MVP qui vont rentrer dans le ring pour finir ce Tag Team Turmoil. Et alors là, ça va être un peu plus rapide, ça va durer 6 minutes, ça va être un peu plus envoyé. Mais là, le Almighty Champion, les amis, il est vraiment en mode Almighty parce qu'il est vraiment en mode Destruction. Quoi. C'est là, moi je le trouve en fait, chaque lundi, je me dis, putain, c'est pas possible, il monte d'un cran ce gars-là à chaque fois. Quoi. Et là, en plus, j'ai bien aimé parce que j'ai bien senti, tu vois, je l'ai senti, mais vraiment vénère avec tout ce qui se passe autour d'Orton et tout ça. Et qu'il veut vraiment prouver parce que l'autre, il se la ramène, il est champion par équipe, il est, je sais plus, 12, 13, 14 fois champion du monde. Donc là, il veut ramener un peu le CV, un petit peu, j'ai envie de dire, Randy Orton, quoi. Et je trouve que Lashley, là, il montre à quel point il est costaud. D'ailleurs, hein, notre ami Lashley, il y a eu le Pro Wrestling Insider, je passe du coq à l'âne, mais. Qui est sorti le classement donc des 500 catcheurs et Bobby Lashley qui colle une belle troisième place à ce classement. Donc on reconnaît quand même la belle année qu'il vient de faire là Bobby Lashley quoi. Et donc bah du coup le match va être de super qualité hein. Omos AJ Styles après les New Day enchaîne avec Bobby Lashley MVP. Bon MVP lui on va pas se mentir hein, c'est toujours assez lent, c'est toujours voilà, il profite de la puissance de son champion pour pouvoir un peu s'esquiver tranquille, on va dire être assez discret dans le ring, tout se centre vraiment avec AJ Styles. Qui va tenter un phénoménal forearm au final, qui va être esquivé et Lashley va coller un gros spear. Coucou Goldberg pour la victoire. Juste après l'affrontement, Omos va coincer quand même le Almighty avec un gros choke slam là, les commentateurs américains, le train slam, ce que je crois, et le tree slam. Et alors que Lashley il se relève, et ben qui débarque, Randy Orton out of nowhere et qui nous chope le champion pour la deuxième fois il me semble en deux semaines avec un RKO des familles, avec un Bobby Lashley mais raide comme la justice et qui s'encaisse ça mais alors bien comme il faut, le champion à terre, Randy Orton célèbre, Randy Orton mon papy est champion du monde par équipe et il est dorénavant le number one contender pour le titre individuel. Pour le WWE Champion, moi je dis, wouh, ça finit en fanfare ce Monday Night Raw.
Ça finit en fanfare et je pense qu'ils ont trouvé la bonne recette pour le titre suprême de Raw. Ça faisait des semaines où moi personnellement je trouvais qu'il y avait un souci à Raw, c'est qu'ils n'arrivaient pas à mettre en valeur le champion. Et que bah en fait ce qui était le truc le plus chaud du moment c'était la Tag Team Division parce qu'il y avait un Orton et Riddle qui étaient vraiment en feu avec une pop de malade. Alors aussi un peu notre ami Damien Priest, mais bon là, c'était surtout les Tag Team qui étaient en feu et l'idée de remettre du coup Lashley dans la division Tag Team en se disant bah tiens on va bénéficier de ce qui marche le mieux en ce moment pour remettre la lumière sur le titre suprême, et ben moi je trouve que c'est une super idée. Le public était complètement fou en fin de main event. Alors le premier passage entre New Day, Ali et Mansour, c'était plutôt calme parce que Ali et Mansour c'est pas une grosse équipe. D'ailleurs ils ont encore un peu joué sur la dissension entre les deux pour justifier la victoire du New Day. Par contre ensuite quand Jey Omos arrive, méga pop déjà à ce niveau-là. Omos qui te claque Kofi Kingston comme on te claquera un moustique là. Par terre, une magnifique claque et un gros segment. Et derrière, on pensait que Omos et Jessal c'était le top de la pop, mais en fait, derrière, t'as MVP et Lashley qui arrivent dans le ring. Alors là, c'est le toit qui explose. Alors je me demande si MVP n'est pas le local de l'étape. C'est peut-être ça. Il n'est pas de Miami, MVP par hasard
Peut-être, ouais.
Parce que le public est à 10 000% derrière lui. Du coup, ça, il était aussi à 10 000% derrière Lashley. Et quand ils ont gagné l'opposition, avec notamment une grosse épreuve de force entre Lashley et Omos, qui pareil a fait frémir le public, et ben, re-explosion du stade. Et puis pour finir, le RKO de Orton là, qui tue Lashley pour la deuxième fois en deux semaines. Et quand tu dis les raids morts, Et je le trouve super impressionnant quand le RKO est vendu comme ça, quoi. Donc, ouais, gros main event.
Il est bien de Miami, notre ami MVP, ouais.
Il avait une pop du feu de Dieu, hein.
Ouais, ouais, ils avaient clairement le public avec eux, là. Et puis, c'était assez facile avec Styles et Omos qui sont. C'est assez bizarre, finalement, parce que c'est deux équipes qui ont des passages comme ça ou des moments comme ça de facitude, en fait, avec le public. Tu vois? Styles et Omos, depuis qu'ils sont censés faire un règne heel, mais ça n'a pas été rare le nombre de shows où ils ont été acclamés en fait par la foule, quoi. On a eu droit à AJ Styles, entre autres. Donc, mais c'est moi je trouve que c'est plutôt un point positif en fait, ça, si tu veux. C'est bien qu'ils puissent que de temps en temps, on reconnaît un peu autre chose que la facitude ou la heelitude et juste le talent, tu vois. Et je trouve que ça fait plaisir dans ces cas-là, quoi. Après, MVP, moi, dans le ring, je considère qu'il est rincé, mais avec tout le boulot qu'il fait avec le Hurt Business et comment il est au micro et comment il gère ce truc-là, que de temps en temps, il se fasse un petit plaisir dans le ring, ça me choque pas, quoi. Ça me pose pas de problème, quoi. Et puis, il est toujours dans un état d'esprit où il est là pour mettre over Bobby Lashley. Et comme l'autre, il est monstrueusement, barbaqueusement, énormissime, quoi. Oh là là, quelle machine de guerre, ce Bobby Lashley, quoi. Ah, mais le gars, c'est le tank tigre de la deuxième guerre mondiale, quoi. C'est un truc de fou, quoi.
Mais Raw est en train de retrouver son star power, en fait. Il l'avait perdu, là, depuis des semaines.
Ah, bah là, ouais.
Regarder, à faire des histoires sans queue ni tête, des matchs qui étaient foireux à chaque fois. Et tu vois, t'avais besoin de Goldberg, hein. Le star power, tu l'as. Et t'avais pas Drew McIntyre et Sheamus qui étaient plutôt dans le show, hein.
Ouais,
et entre Styles, Lashley, Orton, rien que ces trois-là, déjà.
Ouais, puis tu.
Et les New Day, t'avais un star power de malade, pas d'air de meilleur, hein.
Tu remets la lumière un peu sur la Tag Team Division. Les filles sont pas oubliées, et quand même les ceintures des filles des deux filles, quoi. Enfin, le Tag Team et l'individuel sont présents dans le show. Même le 24/7 trouve sa place. Donc, du coup, il termine. Pour moi, vraiment un rond en feu d'artifice, quoi. Là, le star power, il y est, quoi. Quand t'as des mecs, là, t'as un paquet de multi-champions. Parce que j'en ai pas beaucoup parlé en fait sur la fin, mais on a quand même Riddle et Randy Orton qui sont là tout du long, quoi. Et qui commentent et on sent bien que Riddle, lui, on sent qu'il kiffe, quoi. Il kiffe sa vie d'être
il a des étoiles dans les yeux, là.
Ah, mais c'est clair, il est heureux, là. Et si tu fais le sur ce match-là, sur le line-up de ce match, bah au final, il y a un paxon de champion du monde par équipe. Tu vois, t'as des grandes slam champions quand même, mine de rien, quoi, avec des AJ Styles et des Kofi Kingston. Donc c'est du lourd, tout ça. Hein. Donc,
c'est pour ça que le public, en fait, parce que là tu lui mets finalement les meilleurs. Les plus grands noms, les plus grandes stars, et tu leur donnes plein en plus. Il y a plein de temps pour profiter dans ce rôle.
Ouais.
Et là, le public a vraiment dû prendre son pied, je pense.
Bah écoute, nous, on va voir si on a pris notre pied ou pas avec ce 1476e Monday Night Raw, en donnant notre note, notre flop et notre top. Go, go, go!
On y va! Alors, c'est un sacré Raw, hein. Je vais le dire tout de suite, avant d'attaquer mon mot de la fin. Ça fait plaisir, là. Je sens qu'ils tiennent quelque chose. L'idée d'avoir fait le turmoil d'une heure est étalée en deux parties pour faire l'opener et le main event, c'est une bonne idée. Puis, comme tu as dit, tout le monde est plutôt bien servi, même les filles. Il y a quand même des segments très faibles qui se sont mis en plein milieu du show, là. Alors, moi, j'ai pas trop aimé les tag teams féminins. Mais pour moi, le plus faible du plus faible, mais c'est pas pour tirer sur l'ambulance, mais c'était vraiment mauvais, c'est le segment Cross-Morrison. Là, c'est... Je comprends pas. Là franchement, c'est ni fait ni à faire. C'est non seulement la tenue de Karrion Kross et son booking actuel n'est pas forcément intéressant, mais là, en l'occurrence, le segment était vraiment, vraiment raté. Donc, carton jaune-orangé pour cette rivalité-là, ce segment-là. Mon top, du coup, est-ce que je ferme le show de la facilité? Mais oui, je le donnais au turmoil match d'une heure. Voilà, ça, je suis tranquille. Je suis tranquille, je me donne mon top là-dessus. Voilà, on l'a dit, hein, c'est un truc finement découpé. Finalement, t'as aucun temps faible. Moi, j'arrive pas à en trouver, parce que même les Lucha House Party, c'était pas forcément intéressant, mais bon, ça se regardait. T'as vraiment qu'un temps faible dans l'histoire, et puis ça a permis je trouve que plein de gens en sortent renforcés de ce turmoil en plus. même les connards de Retribution avec leur attaque, et ben finalement ça quand même les positionne un peu comme des mecs violents, donc même eux ils ont 0,01% de plus d'agressivité. Donc voilà pour mon top. Et du coup ma note, et ben avec un, alors sur 2 heures et quart de temps d'antenne effectif, t'as déjà 1 heure de catch de très haut niveau avec le Tormol. En plus, si tu rajoutes le Drew versus Sheamus et tu rajoutes le Naya versus Charlotte, t'as quasiment les 3/4 du show qui sont consacrés à du bon catch. Et donc, du coup, bah, je vais donner une très bonne note, ma meilleure note d'euro de l'année, je crois, puisque je vais donner un 3,75.
Ouh, ah oui, une belle note, mais je vais te rejoindre sur pas mal d'aspects. Moi, je vais partir sur le principe que je vais donner mon flop. J'hésitais sur deux trucs, mais je vais le donner à Karrion Kross, quoi. Vraiment, Ah, c'en est. Alors, franchement, moi qui étais si fan du mec à NXT et de tout le décorum qu'il y avait autour de ce type. Un gars en plus que je connaissais d'avant NXT, puisque que j'avais vu un tout petit peu à la TNA du temps de Killer Cross, le voir là se dépatouiller dans cette espèce de gloopy boulga qui lui ont servi pour cette montée dans le main roster, oh là là, mais puis là c'était catastrophique, quoi. Enfin, je veux dire, t'as tout dit tout à l'heure, quoi. Il y avait tout acheté, quoi. C'était bon, faut tout recommencer depuis le début. Et vraiment, donc c'est vraiment triste que dans un RAW d'une telle qualité, justement, eh ben on ait un segment aussi faiblard, quoi.
Ça fait tâche, hein.
Moi, les filles, je suis un peu moins dur que toi. Moi, les filles, c'est mieux passé, quoi. Moi, j'ai accepté le truc assez facilement. Et j'ai trouvé ça pas trop mal. Au final, elles ont eu quand même 25-30 minutes consacrées à elles sur ce RAW, quoi, en temps cumulé. Et quand tu vois le programme qu'il y avait, c'était pas mal. Et puis voilà, c'est un peu le retour du catch à Raw un peu, j'ai trouvé, quoi, aussi, quoi. Tu vois, grâce à quand même ce choc celtique, quoi, ce Sheamus Drew McIntyre là, 15 minutes de bombe atomique. Moi, ça peut me faire que plaisir d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'hésitais, comme tu avais donné au Tag Team Tournament, j'hésitais à donner mon top à ce match. Et en fait, je ne vais pas hésiter. Je vais leur redonner. Alors, il me semble que ça va être la deuxième fois cette année que je dois donner mon top à un Sheamus McIntyre, puisqu'il me semble bien que je l'ai donné soit dans le match du pay-per-view, dans un match de Raw déjà. Donc, vraiment. Ouais, c'est une valeur sûre, j'adore. C'est le Tag Team Tournament, hein, de toute façon, je te rejoins. De toute manière, ça serait un co-top, quoi. Hein, c'était assez génial, c'était bien du star power, c'était bien vraiment une fin super. Mention spéciale au New Day pour ce grosse performance qu'ils auront fait ce soir. Mmh. Et puis vraiment un feu d'artifice, comme on l'a dit, sur cette fin de match là avec tous ces champions là présents au bord ou dans le ring, et puis que ça donne un Bobby Lashley archi-dominateur, archi-bobinator, et ça fait plaisir. Et puis bah écoute, t'as mis une belle note, t'as mis vraiment une très belle note, hein, parce que avant qu'on se retrouve pour l'enregistrement, j'étais un peu entre 3,5 et 4, et je me disais, alors là, si je donne un 4 à ce rôle-là, c'est vraiment, ça sera la première fois de l'année que je mets un 4 à Raw. Mais globalement, s'il n'y avait pas eu le crash Karrion Kross, ouais, ça fait perdre un point. Ouais, oh là là, ouais, 3,75. Oh, allez, vas-y, je vais équilibrer la balance avec mon tag team partenaire gériatrique. Et moi aussi, je vais mettre un 3,75. Ça nous fait quand même une magnifique note. Ça nous fait une magnifique note pour ce Monday Night Raw, quand même, du 6 septembre 2021, mon papy, quoi. Ça fait plaisir, quoi. Hein.
Ça fait vraiment, vraiment plaisir de partager ce très bon Raw. Et j'ai juste une petite pointe de regret, quand même, c'est de me dire, quand même, et j'y pense aussi en faisant parallèle de ce qu'on a dit à SmackDown avec les Usos, c'est que quand même on se rend compte que la tag team, ils savent faire, en fait, hein, la WWE, quand ils veulent.
Ah, mais bon,
c'est franchement du gâchis de nous en avoir privé pendant quasiment toute l'année 2020, de nous avoir privé pendant la quasi-totalité des pay-per-view du début de l'année, puisque je crois que arrivé à WrestleMania, il devait avoir eu un seul match de tag team masculin, parce qu'il y a eu un petit peu de match féminin pour justifier la baston entre Sacha et Bianca Belair, mais sinon on en a été vachement sevré, quoi, de tag team depuis un an et demi. Donc voilà, il y a vraiment du talent dans leur roster, les New Day, les Usos, puis tous les gars qu'on a vus ce soir. Donc c'est dommage de s'en priver, et je les encourage à plus souvent les utiliser, leur tag team.
Alors ouais, moi j'ai pas regardé. Alors j'avais pas trouvé les ratings pour au moment où on enregistre là, donc j'avais pas les ratings de ce Monday Night Raw. J'ai pas regardé finalement un peu ce qui avait été dit autour et ce qui avait été un peu pensé, le rendu de ce Monday Night Raw, parce que sur les réseaux sociaux, etc., c'est souvent très très dur avec Monday Night Raw, hein. Parfois à raison, hein, de toute façon. Mais du coup, j'avais eu le seul retour que j'avais eu, en fait, c'était la note de Cage Match. Mais comme Cage Match, il note super dur.
Super dur, pas WWE.
Ah ouais. Oh non, Cage Match, il dure. Non, franchement, Cage Match, il note dur. Quand même, malgré tout. Hein. C'est alors eux, ils notent sur 10. Hein, c'est les seuls qui notent sur 10. Mais alors par contre, c'est des 5,72, des 6,64, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Mais bon, au final, vraiment, en tout cas, moi, je suis content d'avoir ressenti ça, d'avoir retrouvé un Monday Night Raw un peu plus sympa. Tu vois, dès qu'il y a de la compétition, dès qu'il y a du bon catcher, dès que voilà, ils savent faire, il y a pas de problème. Les super heavyweight à la WWE, on connaît la matière et ça fait plaisir quand ils savent faire des trucs vraiment sympas avec ces catchers-là et ces gabarits-là, quoi.
Yep, ça fait plaisir.
Ouais, Sheamus, Drew McIntyre, déjà, de toute façon, les deux mecs, tu les vois en face-off au milieu du ring, déjà, tu te dis, waouh, putain, la vache, quand même, quoi. Quand tu y réfléchis un peu deux minutes, hein, même quand t'es un suiveur régulier et tout, hein, au bout d'un moment, on est habitué à voir ces colosses et tout. Mais quand même, quand t'analyses un peu le truc, tu te dis, waouh, la vache, quoi. Puis en plus, c'est un Irlandais, un Écossais, quoi. C'est du tournoi destination qui est devant nous, là, tu vois. C'est beau, c'est quelque chose, quoi. Il faudrait une European Championship qui vienne et qui fasse son retour.
Ah bah et pourquoi pas un jour de faire venir ça. Mais de toute façon, tu regardes depuis le début d'année, en termes de performance individuelle catchesque, je pense que la plupart des meilleurs talents individuels, c'est côté Raw en fait finalement. Le souci c'est leur show hebdo est vachement mal booké, et incompréhensible et foireux à souhait. Mais en termes de match individuel, que ce soit Drew, que ce soit Sheamus, que ce soit Lashley, enfin, il te sort que des gros matchs depuis 6 mois, voire même plus. Hein. Donc, c'est vraiment dommage qu'il t'enrobe ça d'un gros tas de merde, quoi, de temps en temps.
Ouais, voilà. Fille,
et puis Charlotte aussi, niveau fille. Ils ont Charlotte, enfin, ils ont vraiment du gros, gros talent individuel. Hein.
Surtout qu'en plus, on rentre là de la période septembre-décembre, qui est jamais forcément la plus folle à la WWE. Donc, du coup. Ouais, c'est pas extraordinaire, quoi. Donc voilà, bah écoute, en tout cas, sur ce coup-là, sur ce Monday Night Raw du 6 septembre, bah, on a été gâtés et c'est tout ce qui compte, mon papy.
Nous étions ravis.
Voilà. Alors, pour savoir si dans les autres reviews, on est ravis aussi, vous pouvez nous trouver à différents endroits, peuple de catch-up. On a en ligne, si vous n'avez pas encore l'occasion de suivre, la review consacrée à SmackDown du 3 septembre 2021. Il y aura pas mal d'actualités au cours de ce mois de septembre. Je pense qu'on va avoir une petite review de All Out de la All Elite Wrestling qui tombera un moment ou un autre. On a Extreme Rules en prévision. Bref, il y a de l'action. Et pour retrouver cette action, et ben, tout simplement, soit vous êtes sur YouTube, vous vous abonnez, vous commentez. Soit vous êtes sur une plateforme de podcast, PodCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict. Ah, c'est un nouveau, ça. Tiens, le patron, il m'avait pas prévenu. On a un nouveau, peuple de catch-up. Alors, je répète tout depuis le début. Aosha, PodCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Podcast Addict. Ouh là là, comme on est sérieux ici.
Ça rigole pas. Hein. On envahit.
Ouais, ah, c'est clair, ouais. Et puis, vous pouvez rejoindre la communauté catch-up pour échanger avec vos chroniqueurs en direct live sur le Discord. Tous les liens sont dans la description. Je vais remercier et clôturer ce Monday Night Raw du 6 septembre 2021 en remerciant, en faisant des gros bisous à mon papy. Merci papy.
Et merci à toi tonton pour m'avoir invité. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu pour un Raw et c'est un bon Raw, donc je suis très heureux que tu m'aies invité.
C'est formidable. Moi aussi, je suis en joie toujours de terminer une émission par une belle note, avec un bel esprit, dans une belle ambiance. Ça, c'est que du bonheur. Alors là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait les bisous. On vous fait quand même des cordes à linge plein la face parce que... Et puis, bah, je dis salut papy.
Salut tonton et salut à tous.
Et salut peuple de catcheur.
Bon, t'as vu, tonton, cette fois-ci, les petits jeunes, je les ai pas laissés rentrer dans le studio. Hein.
Ah ouais, là, c'était verrouillé. Tché verrouillé.
Dehors, les petits merdeux.